Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 32, Une Heure en Série, l'émission, je vous le rappelle, qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et plateformes confondues, et nous allons vous aider fort modestement à traverser ce troisième confinement, peut-être le dernier, on l'espère. En tout cas, ce soir, nous parlerons époque victorienne et enquêtrice avant-gardiste dans Miss Scarlet sur Polar Plus, guerre des sexes et prostituée vengeresse dans Sky Roro sur Netflix, piège fatal et détresse d'un père dans Un homme d'honneur sur TF1.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Alors ils vont prendre sur eux, puisque le PSG a perdu ce soir, donc ils sont dans un état de désespoir avancé. Mais néanmoins, je connais leur professionnalisme, mais ils iront plus loin que cette tristesse qui les émeut. Marjolaine Bouté, ce soir de Phosphore, ça va aller Marjolaine?
C'est dur.
Je sais, je compatis. En deux mots, surtout quand on parle de foot. Isabelle Danel de bandeapart.fr.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Et Benoît Lagan, le 5-7 de Mathilde Munoz et Télématin, bien sûr.
Bonsoir.
Nous allons commencer en nous projetant à l'époque victorienne, donc avec Miss Scarlet, une série britannique en 6 épisodes disponible donc sur Polar Plus. Nous sommes à la fin du 19e siècle à Londres, en pleine époque victorienne où malgré la présence d'une femme sur le trône, ses consœurs vivent encore sous le joug d'une société patriarcale où il est guère aisé de s'émanciper. Miss Scarlet, jeune femme moderne et bouillonnante d'énergie, d'intelligence et d'ambition, le découvre à ses dépens. À la mort de son père, un détective privé, elle tente de reprendre le cabinet de papa, mais un détective en jupon, aussi doué soit-elle, eh bien, ça n'est pas bien vu. Surtout lorsque vous avez dans les pattes un flic, certes non dénué d'un certain charme, mais un peu bourru, qui ne voit pas toujours d'un œil très bienveillant, un représentant de la gente féminine lui donne des pions et parvenir à résoudre des énigmes là où il a lamentablement échoué.
Good morning, sir. I'm a private detective working a case, and will pay you handsomely to look the other way.
You're a what?
Word will soon spread that my father has died. If I don't take this case, someone else will.
I'm surprised you haven't changed the name to your own.
Miss above the door. That would be a sure way never to have any clients.
The streets of London are not what they once were. The city has changed. The crime, the filth. Chasing criminals is no job for a lady. It should be left to the police.
You're a private detective.
I've had no choice but to take the law into my own hands.
J'adore cet accent. Miss Scarlet, une série en costume et respectant les coutumes du whodunit à l'anglaise. Whodunit, c'est qui a fait le coup, voilà. Créée et écrite, produite par Rachel New, qui a travaillé entre autres sur les séries Monday Monday et Grantchester, avec dans les deux rôles principaux Kate Phillip, que l'on a vu dans Peaky Blinders et The English Game, ainsi que Stewart, Martin, vu dans Les Médicis et Crossing Line. Alors, il nous faut du jupon, il nous faut de la sensibilité féminine, il nous faut donc Benoît Lagan, bien évidemment, pour ramorcer le débat sur Miss Scarlet.
Eh bien, pour moi, c'est le bonbon de la semaine. C'est-à-dire que c'est extrêmement classique, pas du tout révolutionnaire, mais extrêmement plaisant, ce Miss Scarlet. Formule traditionnelle, à chaque épisode, une enquête, avec quand même un petit plus que je trouve quand même vraiment bien dès le départ.
Il y a un final en deux épisodes, quand même.
Voilà, il y a un final en deux épisodes. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, cette détective, elle a du mal à enquêter à cette époque-là, parce qu'une femme détective privée, mais pourquoi l'embaucherait-on? Et la série se permet quand même de montrer qu'elle c'est pas évident d'avoir des affaires. Et donc, ce qui pourrait freiner les enquêtes, justement, vu qu'elle n'a pas d'affaires. Et je trouve que c'est extrêmement bien amené, la façon dont elle finit par se raccrocher à des enquêtes. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que cette série, elle nous montre qu'au fond, alors que c'était il y a 120 ans, grosso modo, être homosexuel, être jamaïcain, être femme, c'est une problématique qui est déjà à l'œuvre à ce moment-là. Et certes, c'est le passé pour nous parler du présent, mais je trouve que c'est montré sans grand discours, juste comme ça, et c'est là aussi extrêmement plaisant. Ça se permet des épisodes avec des huis clos, comme cet épisode dans la prison, l'avant-dernier épisode des 6, qui est exceptionnel, je trouve, en termes de rythmique, parce que ils sont pas nombreux, ils sont dans ce huis clos.
Il y a un petit côté escape game aussi, comme aujourd'hui. Non, c'est vrai que vous avez raison. La manière dont ça s'inspire du contemporain pour raconter autrefois et inversement est assez réussi.
Voilà. Et donc, alors, on pourrait, bien évidemment, trouver que c'est hyper classique dans la façon dont ça traite, par exemple, la place des femmes, etc., parce que ça a été déjà vu et sans doute traité de façon beaucoup plus poussée, mais c'est pas, je dirais en fait au fond, c'est pas tant le propos, parce que là ça a digéré complètement ces sujets et ça ne fait que nous amuser et nous amener dans un whodunit finalement classique. Mais moi vraiment, j'ai les 6 épisodes, je les ai vus avec gourmandise et j'ai surtout envie de voir la suite.
Isabelle.
Ouais, c'est pas une science exacte, hein, parce que j'aurais aimé avoir tout le plaisir que vient de nous expliquer Benoît.
Très communicatif, hein, ça, Benoît nous donne envie de la
revoir. Mais oui, j'adore ça, ça s'entend.
Parce
mais
que,
vous avez l'air d'avoir des réserves,
pour
vous,
moi,
en
c'est
revanche.
Une toute petite chose, quoi. C'est vrai que c'est sympathique, mais ça va pas très loin. Je trouve qu'en plus, sous couvert de parler effectivement des femmes, ça reste, vous l'avez dit, même vous, Xavier, ça reste un détective en jupon. La série s'appelle Miss Scarlet and the Duke en anglais. En français, c'est pas traduit comme ça. Donc, il y a toujours...
Le Duke étant ce personnage justement, de policier...
Voilà,
installé.
Et ce policier, voilà, costaud, bourru, mais néanmoins charmant, intervient sans arrêt. Il y a une espèce de petite tension romantique entre les deux. Enfin, tout ça est extrêmement classique. Alors, je trouve que c'est, pour les adolescents, c'est extrêmement sympathique, ou pour la famille et tout ça. Mais en même temps, c'est quand même vachement violent. Du coup, je sais pas bien à qui ça s'adresse, quoi. Et donc, oui, je suis un peu déçue. Après, c'est vrai que par rapport, tout étant relatif, on va un peu déchanter sur les séries suivantes. Donc, celle-là est très sympathique et recommandable. Mais je trouve ça tout pâteau. Alors, vous avez dit l'épisode, pardon, de la prison. Oui, ça, oui, d'accord. Mais sur les femmes, par exemple, il y a une scène formidable sur 8 épisodes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où des suffragettes interviennent. Je trouve l'épisode suffragette totalement raté. Néanmoins, à un moment donné...
Raté en termes d'intrigue
En termes d'intrigue, je trouve qu'ils n'en font rien, quoi. Et ça se termine en plus sur quelque chose qui me dérange un tout petit peu, sur une espèce de violence que je trouve dommage. Parce que c'est une juste cause, non de zoo.
Non de zoo. C'est une expression du 19e.
Voilà, c'est ça. Non, j'ai failli dire autre chose et je me suis rattrapée au vol. Sacre bleu. Et donc, à un moment donné, Miss Scarlett se fait quand même un peu tenser par une des suffragettes qui lui dit que finalement elle est très égoïste et qu'elle ne va que pour sa propre paroisse et qu'elle s'intéresse pas vraiment au sort des femmes. Ce qui n'est pas inintéressant et qui n'est pas faux. Et du coup, elle décide de donner des cours de lecture à sa gouvernante. Et là, cette scène-là, c'est ce que j'aurais aimé voir dans la série. C'est-à-dire que tout d'un coup, je trouve qu'il se passe quelque chose qui est vraiment à la fois de l'ordre de l'intime, à la fois de l'ordre de la revendication originale,
du féminisme,
etc. Et c'est émouvant. Cette scène est belle. Cette scène me plaît. Cette scène m'est restée. J'avoue qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. J'ai noté prison, donc je me souviens que c'était bien dans la prison, mais objectivement, ça s'oublie quand même assez vite, quoi.
Marjolaine, vous aviez l'air de ne pas être tout à fait d'accord avec les propos d'Isabelle.
Non, parce que effectivement, c'est Miss Scarlett, c'est un tailleur anglais extrêmement bien coupé. On est dans de l'intemporel, on est dans un truc qui tombe bien. Effectivement, c'est classique, mais de faire du classique à ce niveau-là, de qualité, que tout s'enchaîne, et bien justement, de ne pas en faire des caisses sur les suffragettes, parce qu'à l'époque, elles étaient isolées, et à l'époque, la plupart des femmes n'y croyaient pas, et c'était pas leur problème, et je trouve ça assez juste. Et oui, cette scène-là, à la fin de sororité et d'émancipation par la lecture, c'est bien, mais c'est bien aussi de montrer le radicalisme de certaines de ces suffragettes, leur isolement, leurs difficultés, et le fait qu'elles étaient infiltrées par la police, comme vraiment une menace à l'ordre social. Je trouve que là encore, sur la condition des homosexuels, ça en fait pas des caisses, mais c'est dit, c'est montré, voilà.
Bon, le personnage est quand même ridicule, pardon.
Non, je trouve pas.
Le Star Wilde, là, non.
Oh, si, il est maltraité, quel dommage.
Non, il s'émancipe de sa mère.
Il est, encore une fois, on est vraiment dans du classique avec effectivement le duo Will They, Won't They, est-ce qu'ils vont coucher? On le sait, on connaît ces codes-là. Moi, je trouve que c'est une série pas violente.
Mais enfin,
c'est une série qu'on peut regarder en famille,
quand même. Quoi.
Oh,
il
non, passe non,
rien.
Non, elle est très jolie.
Ah oui.
Oh, elle est jolie, mais il se passe rien. Il n'y a pas d'alchimie. Pardon, Marjolaine, je
Peux
la
pas
parole.
Parler, en fait. J'ai écouté tout le monde gentiment. Je voudrais quand même dire que l'ambiance gothique est tout à fait assumée et bien rendue, parce que chaque plan, chaque premier plan d'épisode, c'est vraiment une couverture de livre. Et c'est littéraire, en fait, cette série. Et la prison, le manoir anglais, la jeune fille qu'on va retrouver dans un bordel, etc. Tout ça est effectivement des cartes postales, mais qui rendent hommage à un genre littéraire et à un genre de série. Voilà. C'est féministe sans en faire trop. Et moi, je trouve que parmi tout ce qu'on va parler, c'est une série qu'on peut regarder en famille, avec des enfants de 10 ans et plus, qui aiment Agatha Christie, par exemple, ou ce genre de choses. Et ça se regarde très bien. Voilà.
C'était Miss Scarlett sur Polar Plus. J'imaginais peu et mal que ça susciterait un tel débat, mais j'en suis absolument ravi. Your Name par Tora, extrait de l'album Cavalier, sorti en 2020. La chanteuse se décrit comme, je la cite, une empathique à la langue bien pendue. J'aime bien cette phrase-là. Your Name parle de la dépendance du regard des autres, du besoin de validation. Elle y évoque sa propre existence en affirmant « They don't write stories about women like me ». Ils n'écrivent pas d'histoires sur les femmes comme moi. Elle les chante et c'est une juste revanche.
France Inter. Série.
Et le conseil littéraire vient en écho donc à la série que nous venons d'évoquer, Miss Scarlett. Et je vous ai trouvé un livre qui s'intitule « Un talent pour le crime » d'Andrew Wilson aux éditions City. De toutes les énigmes inventées par Agatha Christie, il en est une qui reste encore à ce jour irrésolue, celle de sa disparition en décembre 1926. Pendant quelques jours, la romancière qui vient de rencontrer le succès avec son diabolique et novateur Le Meurtre de Roger Ackroyd semble s'être volatilisée. Une fois retrouvée, l'autrice ne s'exprimera jamais sur cette évaporation. Andrew Wilson, universitaire et connaisseur érudit de l'œuvre de la Reine du Crime, invente une fiction au cœur de cette réalité énigmatique. De passage à Londres, où elle doit rencontrer son éditeur, Agatha Christie croise la route d'un médecin à l'esprit manipulateur qui propose un marché à la femme de plume. Il exige d'elle qu'elle assassine à sa place son épouse dont il rêve de se débarrasser. Et si Agatha Christie refuse, il n'hésitera pas à révéler au grand jour les infidélités de son mari et surtout à s'en prendre physiquement à leur petite fille. Point de départ d'une course contre la montre où Agatha Christie devra se faire enquêtrice pour ne pas devenir meurtrière. Un pur whodunit savamment orchestré qui ravira les amateurs de polar raffiné et machiavélique en hommage à l'immense dame du crime qu'était son héroïne, un talent pour le crime d'Andrew Wilson aux éditions City.
Et ça va être adapté, ça, bientôt, je pense. Hein. C'est évident.
Je vais vous raconter comment marche la radio. Normalement, il y a un jingle, Benoît. C'est normal, vous débutez dans le métier, vous n'avez que 20 ans de carrière. Donc, et alors, quand c'est rouge, normalement, vous êtes à l'antenne.
Oui, mais vous m'avez tellement ébloui avec ce résumé que je le voyais déjà dans ma télé.
Ça tombe bien. Mais peut-être, dis-moi, avez-vous raison, il y aura-t-il une adaptation d'un talent pour le crime. En tout cas, voilà, une fois encore, si vous aimez les polars comme ça, avec Tassaté et tout le décorum britannique, vous serez ravis. Je peux y aller ?
Oui, bien
Merci
sûr.
Merci beaucoup. Deuxième débat, Sky Roro, littéralement ciel rouge. Série espagnole en 8 épisodes disponible sur Netflix. Après les bas-fonds londoniens baignant dans le brouillard, changement de climat avec cette série qui nous plonge dans le désert brûlant du Tenerife. Brûlant à tout point de vue, puisque l'intrigue commence lorsque trois jeunes filles prostituées de luxe s'échappent du bordel rutilant où elles travaillent sous les ordres de Roméo, le propriétaire du lieu. Mèche d'allumage de ce road movie jonché de cadavres et lancé sur un asphalte dégorgeant de litres de sang. Oui, alors ça c'est violent. Oui. Nous sommes d'accord. Ou après avoir laissé pour mort ce Roméo peu romantique, les trois amis d'infortune sont pourchassés par ces deux hommes de main, Moïse et Christian, deux frangins aussi dissemblables que dangereux.
Voilà le club où je travaille. C'est ici qu'on passe nos soirées à se tortiller sur un canapé en sky rouge et à s'efforcer de paraître suffisamment merveilleuse pour que quelques pauvres types nous fassent l'amour.
Tu quitteras pas ce club.
On va s'offrir une nouvelle vie.
C'est la dernière fois que je te pose la question. Elles sont où ?
On va être quoi ? Des lapines ou des renardes ? Des renardes. Dans tous les sens du terme.
C'est vrai qu'en français, lapine ou renarde, il y a un sous-texte, je ne sais pas. Loin de moi l'idée de l'analyser, bien évidemment. Sky Roro, une série qui lorgne vers la série B bien crue et bien salace à la Tarantino, créée par Alex Pina, auquel on doit La Casa de Papel et El Embarcadero, ainsi que par Esther Martinez Lobato, une scénariste qui avait d'ailleurs travaillé sur ces deux séries. Avec dans les rôles principaux, et c'est peut dire qu'elles sont très jolies, Veronica Sanchez, qu'on avait vu justement dans El Embarcadero, Yanni Prado, Lali Esposito et Miguel Angel Silvestre, qu'on avait vu dans Velvet et dans Sense8, souvent fort dénudée, et là, si j'en crois le regard énamouré de Marjolaine au-dessus de son masque, elle n'a pas oublié
Lubrique.
Le torse.
Lubrique.
Mais vous avez raison. Assumé. C'est un carton plein pour Netflix. La question qui se pose, est-ce que c'est une grande série féministe, comme elle semble s'auto-définir elle-même, ou est-ce que c'est une accumulation de clichés machistes ? Je vais vous poser la question. Elle est déjà soulevée par la presse. Je n'ai pas dit que la réponse était contenue, d'accord, comme en mathématiques, dans l'énoncé. Pour GQ, Sky Roro est une série violente, ah oui, ça bravo, parfois drôle, toujours tendue et tout à fait captivante. Pour les échos, Sky Roro a le charme d'un cactus au milieu du désert, bourré de piquants mais plein de suc.
Ah.
Là aussi, il y a des mots qu'il faut un petit peu éviter d'employer. En revanche, pour Télérama, la série pâtit de personnages féminins constamment ramenés à leur statut d'objet sexuel, une mise en scène graveleuse et des dialogues très explicites pour ne pas dire vulgaires. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a déjà une saison 2 en cours de tournage. Voilà, mais nous n'y reviendrons pas, nous faisons que les premières saisons. Isabelle, vous qui avez trouvé de la violence dans Miss Scarlett, je suis un petit peu curieux de savoir ce que vous avez pensé de Sky Roro.
Oui, bon, là, évidemment, je jette le gant. Non, mais ça sent à plein nez son bon vieux retour aux années 90 et au diapason de la bande-son qui crache des remixes à tout va. On est en présence d'une sorte de remix, un mélange des films donc de Alex de la Iglesia et de Robert Rodriguez, qui eux-mêmes déjà été des plagiaires puisque il reprenait du Pedro Almodovar et du Quentin Tarantino. Donc là,
qui reprenait Russ Meyer.
Également, oui. Donc,
la généalogie est lointaine. Hein.
Je ne sais pas si c'est bon pour la planète, mais c'est recyclage de recyclage, quoi. Donc, tout ce qui nous est proposé ici, ça a déjà énormément servi. Et sous couvert de pop et de coloré, etc., il y a des gros plans de seins, de fesses. Elles sont sans arrêt, c'est vrai, je ne sais plus quel journal a dit ça, mais renvoyées à leur statut.
Télérama.
Voilà, donc je suis d'accord avec Télérama. La violence, alors là, est d'un explicite, d'une complaisance, mais il y a longtemps que j'avais pas vu ça à ce point-là. Et c'est aussi féministe que je suis pilote de ligne. Je veux dire, il n'y a pas l'ombre d'un doute, ça n'est absolument pas féministe, c'est tout le contraire.
Je suis d'accord.
C'est œil pour œil, dent pour dent, c'est une vengeance appelle une vengeance. C'est des corps qui partent en l'air et qui tombent avec un bruit mou après avoir été renversés par des voitures. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant, quoi. Et c'est censé être drôle, mais moi, ça me fait pas rire. C'est-à-dire que les dialogues, la renarde ou lapine, ça nous a fait rire là, mais ça doit être la version française, parce que je me souviens pas d'avoir ri comme ça devant ma télé.
Marie-Annie Cravo, notre réalisatrice, a très bien isolé cette partie de la bande-annonce.
Mais comme toujours,
là pour cela.
Comme toujours. Et donc, voilà. En plus, c'est criard. La mise en scène, c'est des plans très courts. Le montage est quasiment stroboscopique par moment. Enfin, il y a pas grand chose à sauver. Oui, elles sont jolies. Donc, so what, quoi. Donc, pour moi, c'est pas possible, quoi.
Lapine ou renarde, Benoît? Je parle de vous, bien sûr.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je répondrai pas à cette question. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. Moi-même, cette série m'a vraiment agacé à un point. D'autant plus que moi, je restais sur le souvenir de El Embarcadero.
Qu'on avait beaucoup aimé,
et par les mêmes créateurs, qui jouaient sur le thriller romantique, le thriller érotique, et qui le faisaient avec brio parce que elle lâchait pas la psychologie des personnages. Or là, le gros problème, c'est qu'au-delà de tout ce qui vient d'être dit, et je partage à 100%, c'est qu'il y a aucune psychologie, et que les rebondissements, on est dans ce que moi j'appelle souvent, quand je regarde ce genre de série, l'effet montagne russe. C'est-à-dire que on nous balance en permanence des effets pour qu'on reste accroché, mais qu'on reste accroché pour rien. Et à la fin du visionnage des épisodes, on se dit « Ah oui, mais en plus, ça se termine pas. En plus, je vais avoir une saison 2. Non, mais jamais j'irai voir cette saison 2. » Moi, je trouve que cette série, excusez l'expression, est à vomir par ailleurs par rapport à ce qu'elle montre. C'est-à-dire que c'est un clip misogyne qui nous montre des fesses. En fait, elle montre ce qu'elle dénonce, soi-disant.
Et ça, c'est
d'un fatigant à voir. Et donc, alors voilà, c'est comme La Casa de Papel, donc c'est sympathique. Il y a un message soi-disant, mais le message est noyé, est brouillé. Moi, ça m'a totalement agacé. L'effet de style, à un moment donné, stop aux effets de style. Hein, c'est vraiment un gros clip. Et en plus, le fait que les épisodes soient réduits à 25 minutes rend encore plus l'effet clipesque. Et donc, ces personnages qui sont malgré tout, qui auraient pu être sympathiques, parce qu'il y avait tout pour les rendre sympathiques et intéressants et attachants, ces personnages. Même leur histoire, leur passé est évacué en trois coups de cuillère à peau. Enfin, c'est vraiment raté.
Marjolaine, alors, hormis le fait que vous failliez retomber à nouveau sous le chat indéniable de Miguel Angel Silvestre, est-ce que vous avez réussi à garder votre lucidité critique?
Alors,
et qu'est-ce que vous avez pensé donc de Sky Rojo?
Au début, j'ai été effectivement plutôt intéressée. Le côté clipesque, comique, pour adultes, etc., complètement excessif, etc., ne m'a pas gênée au départ. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et puis, très rapidement, effectivement, l'absence de psychologie des personnages, l'absence d'intrigue secondaire, on se fatigue très vite parce que les actrices sont formidables et elles sont pas aidées par les petites tenues, les situations dans laquelle on les met, et vas-y que je te mets dans une piscine, et vas-y que je te mets un pistolet dans la bouche, etc., etc. Malgré tout, elles s'en sortent quand même avec pas grand chose. Mais effectivement, il y a pas grand chose et ce décor quand même de Tenerife. On est sur une île dont il n'y a pas de bateau apparemment. Il est impossible de s'en aller.
C'est jour de grève, on va dire ça. Voilà.
C'est jour de grève. On est dans cette ambiance de cité balnéaire un peu où il n'y a plus de touristes d'ailleurs. C'est très très curieux. Moi j'ai bien aimé cette ambiance au départ, un peu lunaire, un peu western. Mais ils en font pas grand chose. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait une actrice espagnole, une actrice argentine, une actrice cubaine. et les personnages viennent de là aussi. J'aurais aimé, là encore, qu'on en fasse quelque chose sur l'Espagne, machin. Il y a cette voix off extrêmement explicative où on nous donne des statistiques sur la prostitution, où on fait semblant de dénoncer ceux avec lesquels on titille les téléspectateurs, et ça c'est effectivement gênant. Voilà, c'est raté et c'est dommage parce que il y avait plein de choses pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Et on sait que les scénaristes comme les acteurs sont capables de beaucoup mieux que ça. Et on ne verra pas la saison 2.
Ça, je crois que c'est une évidence. Sky Roro sur Netflix.
Sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Se mueve y tambalea.
Malamente par Rosalía, la catalane fan de flamenco, ça je crois qu'on l'a entendu, a été découvert par le grand public en 2018 avec ce morceau extrait de El Mal Querer, un album hybride qui mélange pop, flamenco et R&B. C'est assez réussi quand même, il y a une vraie voix, une vraie personnalité musicale. Un album également féministe puisque ce morceau parle des relations toxiques régulièrement subies par les femmes.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan. Je vous rappelle la règle du jeu, l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et après, l'hypocrite Sky Roro, l'hypocrate de la semaine. Bravo. Ouais, celle-là, j'avais un petit peu travaillé quand même. Donc, une fois n'est pas coutume, un effet miroir sur une série qui n'est pas encore à l'antenne. C'est une première, c'est une deuxième saison, c'est pour ça que nous ne l'avons pas mise en débat, mais nous allons l'évoquer ce soir à travers votre effet miroir et tout à l'heure à travers le plateau télé. Et c'est donc un inédit que vous avez souhaité nous faire raconter par l'auteur lui-même.
Oui, tout à l'heure, donc effectivement, Marjolaine et Isabelle vous diront tout le bien qu'elles pensent de la saison 2 de la série Hippocrate. Donc ça démarre lundi, effectivement, sur Canal+. La série est signée Thomas Liltier, ancien médecin devenu scénariste et réalisateur pour la télévision et le cinéma. J'ai eu le plaisir de le rencontrer pour justement qu'il me parle de l'effet miroir évident que la saison 2 de sa série hospitalière porte en elle. Alors, petit rappel, avant de l'écouter. En saison 1, en 2018, la série montrait un service hospitalier sous-financé qui devait faire face à la mise en quarantaine et le confinement de plusieurs de leurs médecins titulaires pour des questions de sécurité sanitaire, abandonnant du coup le service de médecine interne à de jeunes médecins inexpérimentés. Saison 2, on retrouve les mêmes médecins confrontés à d'autres crises. Nous sommes l'hiver 2020. Le service des urgences se retrouve littéralement sous l'eau, avec le gel et la vétusté, les canalisations pètent et c'est l'inondation. Le service de médecine interne doit donc accepter d'accueillir les urgences en son sein. Si vous ajoutez à ce point de départ l'arrivée dans le deuxième épisode de patients intoxiqués au monoxyde de carbone qui doivent être triés en deux épisodes à peine, Hippocrate saison 2 fait brillamment écho au débordement actuel des hôpitaux. Alors qu'est-ce que la pandémie est venue bousculer dans la production de la série? Comment l'actualité et le réel ont-ils rattrapé la fiction? Eh bien, Thomas Lilti raconte.
Quand la crise arrive, alors que le tournage a déjà commencé, tous les épisodes ne sont pas terminés en écriture, les 6 premiers sont écrits. Et c'est vrai que tout de suite, premier réflexe, c'est de se dire, mais est-ce que ce qu'on est en train de raconter fait encore sens, finalement? L'hôpital vit un tel chamboulement. Je m'inquiète pendant quelques heures. Et puis finalement, je réagis, mais je réalise que ce qu'on est en train de raconter, c'est exactement l'état de l'hôpital au moment où la crise sanitaire arrive. On est pile, en fait, à l'endroit, juste avant. Et on est en train de montrer ça, c'est-à-dire un hôpital où une catastrophe en amènera toujours une autre. Et finalement, le Covid est une catastrophe supplémentaire, aussi majeure soit-elle, qui vient s'installer déjà sur un hôpital qui a subi des catastrophes et des catastrophes depuis des années. Il se trouve que je retourne travailler un petit peu à l'hôpital, que je vois comment les choses se passent. Je me dis, il faut vraiment qu'on continue à raconter ce qu'on avait commencé à mettre en place, c'est-à-dire le mal-être des soignants, la souffrance des soignants, comment c'est si difficile de faire ces métiers d'aide à la personne, de soins, et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le mal-être des soignants, la souffrance au travail? Ça veut dire de ne pas pouvoir bien faire son travail, c'est de ne pas avoir les outils pour bien le faire. Et quand il s'agit de malades, de vie, de mort, c'est absolument terrifiant. Et puis, ce qui a changé également, et c'est pas rien pour moi, c'est quand je suis revenu tourner au mois de juin 2020, la suite de la série, les gens qui travaillaient avec moi, d'un seul coup, ils étaient nourris d'une responsabilité par rapport au sujet qu'on était en train de traiter, c'est-à-dire la réalité de l'état de l'hôpital public aujourd'hui en France, à travers une histoire certes extrêmement romanesque, mais quand même ancrée dans le réel. Cette fierté qu'ils avaient d'essayer de raconter cette histoire qui faisait tellement sens avec l'actualité, que ça a été une grande chance pour moi.
Alors cette saison 2 est au fond très militante, j'ai d'ailleurs fait réagir Thomas Lilti sur cette dimension, en évoquant en particulier les différents slogans et affiches accrochés un peu partout dans l'hôpital, et notamment dans la salle de garde, entre des dessins paillards, des mots d'amour, des mots d'adieu, et puis des slogans encore, et notamment un, sur lequel la caméra de Thomas Lilti s'arrête dans un court travelling, où on peut lire « Il faudrait envoyer l'économe faire un stage de réinsertion sociale ».
C'est pas tellement moi qui l'écris. Finalement, c'est un de mes personnages, quoi. Pas un des héros de la série, mais c'est sûrement un des internes de la série qui a écrit ça sur le mur. Et c'est aussi une façon de dire, les étudiants, ils sont engagés. C'est pas vrai. Peut-être ce qu'il y a de plus engagé dans ma série, c'est de montrer une jeunesse au travail. Moi, c'est ce qui me touche le plus. S'il y a une chose que je dois retenir de mon travail, c'est qu'on a une jeunesse qui travaille et qui est malmenée. Et cette jeunesse qui travaille, elle est engagée. De toute façon, travailler, être ancré dans la société, faire des choses, et notamment faire des métiers de soins, c'est s'engager. Et donc, de montrer qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir un texte politique, de l'engagement politique sur un mur de l'hôpital, c'est quelque chose qui est important pour moi. La fiction, souvent, ne rend pas assez honneur à toute cette jeunesse qui est concentrée dans son travail, dans l'envie d'apprendre des choses et surtout de faire le monde de demain. On a souvent tendance à la décrire oisive, déboussolée, désœuvrée, sans rêve, sans imagination, ce qui est évidemment totalement faux. C'est ça aussi que j'essaie de raconter dans la série.
Alors voilà, la saison 1 d'Hippocrate était brillante, la saison 2 est haletante et bouleversante, mais là, Isabelle et Marjolin vous en diront plus tout à l'heure.
Et je me joindrai à leur concert de louanges parce que c'est vraiment absolument formidable. Merci beaucoup Benoît, l'effet miroir, une chronique à réécouter en podcast et en rediffusion cette nuit entre 2 et 3 heures du matin. Vous êtes bien dans Une heure en série sur France Inter avec ce soir Marjolaine Boutet, Isabelle Danel et Benoît Lagane. Elle se frotte les mains, Marjolaine, l'approche du troisième débat. Ça va être plutôt de la boxe que de la caresse. Un homme d'honneur sur TF1, une série en 6 épisodes diffusée depuis le 22 avril et encore un pour la première chaîne. Je veux parler de remake puisque depuis, je te promets, transposition de This Is Us puis Gloria, d'après la série galloise Keeping Faith, la première chaîne semble se spécialiser dans la francisation de séries étrangères. Vous me direz, d'accord, elle n'est pas la seule. Mais là, quand même, trois coups sur coup, c'est beaucoup. Un homme d'honneur est donc un remake de Kvodo, une série israélienne ayant été également adaptée aux États-Unis avec Your Honor, programme dont nous avions parlé il n'y a pas longtemps, soit donc les mésaventures d'un juge intègre et humaniste qui va devoir ravaler ses valeurs pour tenter de soustraire son fils de la vengeance sanglante d'une famille dont le Benjamin a été accidenté. a tété, je ne sais pas pourquoi, a été aussi accidenté par le fils du juge lors d'un accident de la route. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette famille est celle d'un parrain de la drogue incarcéré par les bons soins de notre héros.
Monsieur le juge,
si tout le monde pouvait être comme vous, impartial et pragmatique.
J'ai eu un accident.
Quel accident ? T'appelais les secours ? Me dis pas que tu t'es enfui, Lucas.
C'est qui a pu faire ça ?
À la place du mec qui a fait ça, je partirais très très loin avant que les Rivas me retrouvent.
T'as renversé Mathieu Riva. C'est le fils d'un baron de la drogue. Si la France c'est toi, tu seras plus jamais en sécurité nulle part.
J'espère que tu sais ce que tu fais.
Ce crime ne doit pas rester impuni.
C'est moi qui vais m'en occuper. Toi, tu restes en dehors de tout ça.
Tu penses que c'est mon fils ?
Depuis le début, il torpille l'enquête.
Est-ce que quelqu'un t'a aidé à cacher ce que tu as fait ?
Qu'est-ce que vous essayez de prouver ? Que c'est son fils qui a renversé Mathieu Riva. La seule question que vous devez vous poser, c'est si vous voulez sauver votre fils.
Un homme d'honneur, une adaptation signée Laurent Vachaud et Anthony Maugendre, mise en scène par Julius Berg. Un casting puissance 10, hein, puisque l'on retrouve au générique Cadmérade, Gérard Depardieu, petit rôle Gérard Depardieu, hein, soyons honnêtes, Rod Parado, Nicolas Duvauchel, Hélène Vincent, Zabou Bretman et Or Attica. Combinaison gagnante, puisque la série a connu un démarrage fulgurant avec plus de 5 400 000 spectateurs, pour ralentir un tout petit peu néanmoins, soyons honnêtes, en deuxième semaine avec le score toujours conséquent, de 4,5 millions de fidèles cathodiques. On la lâche ? Marjolaine ! L'aile rongée. Là, elle n'en pouvait plus.
Oui. Comment dire ? On peut bah, parler, pas, je pense, de catastrophe industrielle. Parce qu'avec autant...
Pas avec ces chiffres-là.
Parce qu'avec autant de talents... oui, mais c'est une fiction sur TF1 le lundi soir, avec ce casting-là.
Non,
bien sûr que ça attire. Il n'empêche que en adaptation de série israélienne, on a fait très récemment En Thérapie, qui, je le rappelle, avait 35 millions de vues. Donc bon, voilà. Avec un budget qui, je pense, à la louche, doit être 4 à 5, peut-être 10 fois moindre que ce qu'est un homme d'honneur. Alors évidemment, on a des superbes acteurs, mais qui sont en roue libre. Il y a un énorme problème de direction d'acteurs. Les dialogues sont indigents et surexplicatifs. La musique est encore pire et vraiment assène les émotions et les coupe totalement. Tous les acteurs jouent faux, sauf Eya Hidara, qui est vraiment, je trouve, sauve. La série, elle est absolument lumineuse. Ils ont réussi quand même à massacrer le CID. et là, je peux pas supporter.
La pièce, hein, pas la série d'Amazon.
La pièce, Corneille. Voilà. Déjà, le scénario de la série israélienne et puis de l'adaptation américaine était un peu fort en rebondissement et en coïncidence. Mais alors là, on trouve des empreintes digitales dans les endroits les plus improbables.
Ah, j'ai rarement vu autant d'incohérences dans une série policière.
La procédure policière et judiciaire, et on s'assied dessus complètement. On a un juge qui a droit de regard sur un dossier dans lequel il est cité. Enfin bref, on n'y croit pas une seconde.
Je crois que voilà. La messe est dite.
Hein, voilà.
En ce samedi pascal. Isabelle Danel.
Oui, moi, je ne peux que souscrire à ce que Marjolaine vient de nous dire. Hélas, moi, j'avais déjà des réserves hein, sur la précédente adaptation américaine, mais là, c'est vrai que c'est un peu un problème. Alors, cela dit, je suis d'accord, faut sauver absolument Eya Hidara, qui est une actrice formidable, qu'on avait découvert dans Le Sens de la Fête, en espèce de torpille comme ça, folle, qui criait tout le temps, etc. Là, elle est extrêmement calme, elle est aussi bien qu'elle était dans Le Sens de la Fête, dans un rôle totalement différent. Et moi, je sauverais Zabou Breitman quand même, oui. Que je trouve que dans ce personnage, c'est les deux personnages intègres de la série, hein. Tant pis, je spoil. Les autres, enfin, je veux dire, je n'ai jamais vu à ce point. C'est-à-dire que un crime en appelle un autre. Personne n'est recommandable dans cette série. C'est-à-dire qu'on nous parle quand même d'un juge intègre qui, alors c'est pour sauver son fils, d'accord. C'était déjà mon souci dans la fois précédente, mais balance toutes ses règles, toute son humanité pour faire n'importe quoi. Mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que sa belle-mère fait n'importe quoi, l'épouse du caïd fait absolument n'importe quoi. Enfin, il y a des morts comme s'il en pleuvait, et c'est absolument pas possible à supporter, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que contrairement à Marjolaine, je trouvais que le démarrage, j'étais pleine d'attente parce que je trouvais que le casting était intéressant, et je trouvais que le démarrage arrivait à résoudre différemment ce qui était vraiment mal fichu dans la version précédente. Et puis après, ça devient n'importe quoi.
Benoît, allez-vous achever cet homme d'honneur?
Je vais pas sauver un homme d'honneur. Je suis d'accord avec ce que dit Isabelle, c'est-à-dire que moi aussi, au premier épisode, j'ai trouvé que la façon dont il ramassait un petit peu le récit était plutôt intéressant.
J'ai eu chouette.
Il y avait une efficacité, par ailleurs, je trouve, dans la mise en scène au début, qui permet où on va dans le vif du sujet. Le problème, c'est que très vite, ces personnages, et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Sky Roro, c'est qu'on a besoin qu'ils aient un peu de psychologie, qu'on puisse comprendre, même dans un scénario rocambolesque qui invente des trucs improbables, on a au moins envie qu'ils avancent, ces personnages, en ayant conscience des choses, en vivant des choses intérieures. C'est ce qu'avait réussi la série américaine, qui nous montrait que ces personnages, même face à l'improbable, réagissait quand même avec quelque chose qui bouillait au fond d'eux. Et on sent que, effectivement, et là Marjolaine a raison en disant sur la direction d'acteur, c'est que Ked Merad, moi, il me plaît bien, je trouve, il se dit, bon, je fais un peu comme dans Baron Noir, donc je fais comme dans Baron Noir. Et sauf que le personnage de Baron Noir n'est pas ce personnage de juge. Et du coup, mais que fait le réalisateur dans cette histoire pour l'aider? Parce que il est bon, Ked Merad, dans son rapport, les moments avec son fils, je le trouve très juste, par exemple. Donc, il pourrait aller plus loin avec ça. Voilà, malheureusement, la série nous laisse très vite en plan, et peut-être que c'est pour ça qu'il y a quand même presque 1 million de personnes qui ont quitté le navire après une semaine.
Voilà, c'était un homme d'honneur sur TF1. Les deux derniers épisodes seront diffusés dans 48 heures lundi soir.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Oh, oh, oh. Là, je te sens plus sûr de moi.
Monde meilleur par Hervé Victoire de la révélation masculine de l'année 2021. Hervé revient avec Hyper Prolongation, une réédition augmentée de son tout premier album. En février dernier, le chanteur d'origine bretonne demande aux internautes de chanter pour ce dernier titre. En effet, une chorale belge avait été prévue pour ce titre, mais crise sanitaire malheureusement mal aidant, il n'a pas été possible pour eux de venir à Paris enregistrer le titre. Donc l'envie de polyphonie demeurant, Hervé a donc fait appel à ses fans pour étoffer cette chanson.
France Inter, une heure en série.
Et il nous reste un peu de temps, et c'est tant mieux, pour évoquer donc un plateau télé spécial Hippocrate saison 2, nous le rappelons, qui démarre lundi soir sur Canal+, et qui nous enthousiasme, d'ailleurs comme Libération, qui parle d'une série qui dépeint brillamment le stress et les solidarités des équipes soignantes. C'était dans Libé ce matin, il y avait un 3 pages tout à fait mérité. Donc, Marjolaine et Isabelle, vous allez nous dire pourquoi, anglais peut-être un petit peu vos opinions justement fort positives sur cette série. On commence avec Isabelle.
Ben oui, en gros, la structure est identique à la précédente, hein, c'est crise, réaction, conséquence. Bon, c'est empire, comme a dit Thomas Lilti dans l'effet miroir de Benoît. Et là-dessus, ils arrivent à déployer des qualités scénaristiques que je trouve impressionnantes. C'est-à-dire que bien sûr qu'on est dans ce constat et que tout ça est formidable, mais qu'il y a une façon extrêmement juste de faire avancer ces personnages qui n'en sont que pas, enfin, je veux dire, qui apprennent leur métier encore tout en le faisant, ce qui est d'une certaine façon une espèce d'aberration, quoi. Et donc, la première saison pour moi était vraiment la saison de la découverte et des certitudes, et celle-là est vraiment la saison du doute. C'est-à-dire que le personnage de Chloé particulièrement, qui est joué par Louise Bourgoin, c'est vraiment une espèce de grand personnage comme ça, tout droit, tout fort. Et ici, on sent une fêlure, on sent que
invalide
tout ça
d'un
se
bras
fissure.
Pour le début de la saison.
Voilà, on sent que tout ça se fissure, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé et le doute qui déjà était un peu faisait partie de ce que pouvaient ressentir Alison et Hugo est encore plus présent là. Et je trouve que du coup, ça donne un arc au personnage qui est vraiment extrêmement fort et humain. Et au-dessus de tout ça, il y a le personnage du médecin urgentiste qui est joué par Bully Lanners et qui apporte là aussi, lui aussi, il doute, lui aussi, il s'excuse quand il fait des erreurs, etc. Enfin, on est vraiment dans autre chose par rapport à la saison 1. On est vraiment dans comment on accuse le choc, et y compris dans des personnages qui étaient très épisodiques dans la première saison et qui là arrivent, notamment Igor, qui est un personnage extraordinaire, et un personnage d'aide-soignante qui est joué par Sylvie Lachat, qui est comme une espèce de pitié tout le temps, qui dit sans arrêt ça va péter, ça, on peut pas continuer, etc. Et donc tout ça fait vraiment une saison que je trouve extrêmement originale pour redire la chose la plus importante, et pour moi c'est essentiel, quoi, qu'elle existe.
Le tour de force en plus de cette deuxième saison, c'est l'évolution, comme vous l'avez souligné, des personnages dans un temps dramaturgique restreint, parce que ça se passe pratiquement sur, en tout cas les premiers épisodes, sur 2-3 jours, oui, grand maximum. Ils sont bloqués à l'hôpital, ils vont faire des tours de garde, ils vont les enchaîner, certains n'auront pas dormi pendant 36 heures. Donc c'est pas le moment, j'allais dire, de faire évoluer un personnage comme on l'entend. Et pourtant, si vous l'avez très bien souligné, c'est devant cette adversité, ces adversités, pardon, pluriel, que les gens vont se révéler, vont grandir, vont douter. Et c'est d'une grande justesse. Marjolaine.
Oui, je voulais dire que c'est effectivement, depuis un an, on voit énormément de médecins à la télévision. Mais je veux dire quand même à nos auditeurs que ça mérite de retourner à l'hôpital pour voir Hippocrate saison 2, quand même, parce qu'on les voit autrement, on les voit au travail. Et surtout, on comprend ce que c'est que d'être médecin dans un hôpital public qui manque de tout, qui manque d'argent, ou tous les jours, toutes les heures et à chaque minute, en fait, ces soignants, les aides-soignants, les infirmières, vraiment toute l'équipe et les secouristes font l'impossible à chaque fois. Et face, effectivement, à une société aussi, une société qui souffre. Benoît en a parlé, il y a les problèmes d'intoxication au monoxyde de carbone, donc les problèmes finalement de mal-logement. On voit arriver ça. Il y a aussi, évidemment, les sans-abri, qui sont aussi qui occupent ces urgences. Enfin, il y a vraiment des problèmes d'addiction divers et variés, des problèmes aussi de santé mentale qui sont évoqués dans la série. Enfin, il y a vraiment énormément de choses en quelques épisodes, et on retrouve Urgence, la série américaine, avec ces salles d'attente qui sont un condensé de la société française là pour le coup et de ces mots MAUX, je trouve absolument bouleversant et d'une actualité folle, et c'est vraiment une série à voir pour comprendre l'état des services publics. Et évidemment, il y a l'hôpital, évidemment il y a la jeunesse, mais il y a aussi l'hôpital qui fait partie du système universitaire et de ces internes qui sont des étudiants, qui pensent à leur avenir, etc. Et je trouve ça vraiment très beau. Et ce personnage urgentiste qui est aussi un enseignant, qui leur apprend le métier dans ces conditions-là. Voilà, moi, ça m'a énormément touchée, et j'espère que ça va toucher beaucoup de téléspectateurs qui ne se feront pas rebuter par le fait qu'on entend trop parler de maladies et d'hôpital, parce que ça vaut le coup de les voir travailler.
Et c'est formidablement mis en scène, Thomas Litty, oui. Je trouve, gagne de film en film. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait au cinéma, première année, Hippocrate, mais en termes de mise en scène, il a tourné vraiment in situ à l'intérieur d'un hôpital. Il a le sens des lignes de fuite, perspective, de fuite, de voilà. Et c'est oppressant, et en même temps, c'est pas une série de plaintifs. Voilà. Ils n'ont pas le temps, d'ailleurs, c'est formidablement écrit pour ça.
C'est très humain.
Quasi temps réel, sert complètement la série, je trouve. Je la trouve intelligemment anxiogène, oui, Benoît.
Oui, avec une dimension même onirique. Mm. Il se permet de l'onirisme dans tout ça, je trouve merveilleux. Et puis voilà. Et puis on finit par pleurer sur une chanson de Camaro, et pour réussir à nous faire ça.
C'est vrai.
Voilà. C'est un exploit. Il me reste une poignée de secondes pour vous recommander la lecture de Le Serment, le roman que Thomas Lilty, le témoignage, l'essai que Thomas Lilty vient de sortir chez Grasset. Bah, c'est juste passionnant parce qu'il commence donc ce livre au moment où il reprend du service pendant le premier confinement. Il se souvient qu'il a été médecin, il ne l'a jamais oublié. Donc il a proposé ses services. Ça n'a pas été très bien accueilli, comme il le raconte très très bien dans le livre. Et après, il va évoquer à la fois le tournage, ses doutes, parce qu'effectivement, Isabelle a employé le mot juste, c'est quelqu'un qui doute énormément. Et puis, il va évoquer tout au long du livre, eh bien, les gens qui l'ont aidé à être ce qu'il est. Le FFI, par exemple, le faisant fonction d'interne, qui est interprété par l'extraordinaire Karim Leclou, c'est quelqu'un qu'il a rencontré. Oui, ces gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas le bon diplôme, mais qui font ce qu'ils peuvent, effectivement, pour contribuer aussi à la bonne marche d'un hôpital francophone, français en tout cas, et je trouve ça absolument bouleversant. Et puis, il y a quelques pages à la fin du livre, vous pouvez tout lire, c'est passionnant. C'est un faux journal intime, comme ça, qui se permet des digressions temporelles. Le jour où son père est venu sur le plateau. Voilà, et quelques lignes, on comprend les rapports pas toujours faciles qu'il entretient avec son père, et surtout il nous raconte le bordel que papa a mis sur le tournage, mais avec, on comprend à la fin de ces pages, beaucoup de bienveillance et d'amour pour son fils, même s'il ne lui dira jamais. Voilà, on adore ça, c'est Le Serment, le livre Thomas Lilty chez Grasset, et c'est Hippocrate saison 2, lundi soir. Vous n'avez rien d'autre de mieux à faire. Une heure en série, c'est fini sur Canal+. Merci beaucoup Isabelle. Nous avons terminé sur une note d'enthousiasme généralisé et conjoint, et c'est merveilleux. Mille merci à vous Marjolaine Boutet, Isabelle Danel et Benoît Lagan d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes, à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé Miss Scarlett sur Polar+, Kairoro sur Netflix, Un homme d'honneur sur TF1 et Hippocrate saison 2 sur Canal+. La semaine prochaine, nous évoquerons Bagdad Central sur Arte, Falcon et Le Soldat de l'hiver sur Disney+, demain soir 20h, Le Masque et la Plume, consacré au cinéma, une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet, vous trouverez l'exhaustivité de notre programme, vous pouvez nous envoyer des courriers, et nous aussi, nous ne serions rien, le monde de la médecine n'est rien sans les infirmières et les médecins, bien nous ne serons rien, je vais y arriver pas, sans Marianne Crimbaud à la réalisation, Muriel Pérez à la programmation musicale, et j'ai préparé cette émission avec Amel Caldi, Emma Ferré et Marc Gopage à la technique ce soir, Henri Béret.